Bon, est-ce qu'il y a encore une question là-dessus?
J'ai l'impression que vous disiez que vous avez le ralenti, ça fait pestiner. Le chimie, je pense que vous avez le ralenti.
Tu as bien lu. Peut-être qu'il y a un problème de romantique dans un sens qui n'est pas celui de l'histoire de la littérature, c'est possible. Alors, explique-moi, qu'est-ce que tu entends par romantique ? Sentimental ?
Exprimer ce qu'on ressent au plus profond de notre être, dans les autres.
C'est pas le romantisme. Ça, c'est exprimer ce qu'on ressent au plus profond de notre être. J'ai entendu quelqu'un le dire Rousseau. Est-ce que vous l'avez Rousseau, j'ai entendu.
C'est un pré-romantique.
Oui, est-ce que vous le... On dit que c'est un pré-romantique. Pourquoi? Le sentiment de la nature. On peut avoir un sentiment de la nature dans l'enthousiasme. Mais le sentiment... Ah, mais le romantisme, c'est pas ça. Le romantisme, ça y est. Le romantisme, c'est le héros ténébreux. Et alors, c'est une grande expérience. Victor Hugo est certainement un des grands poètes mondiaux du monde entier. Il n'y a que les petits critiques littéraires jaloux qui ne sont pas capables de faire comme Victor Hugo, qui disent que... Mais Victor Hugo, c'est un géant. Musset, c'est un poète d'une délicatesse extraordinaire. Mais le romantique, c'est une stoïque, donc pessimiste. Ça veut dire, il n'y a pas de sens, mais quand même, ma noblesse fait que je vis quand même, mais... Les sourcils froncés. Et c'est comme ça qu'on devient froncé jusqu'aux sourcils. Bon, vous savez, c'est clair. C'est-à-dire, c'est par rapport à la tradition, sachez bien, par rapport à la tradition hébraïque, l'expérience romantique est une expérience païenne, absolue. C'est païen. Ça veut dire, la nature est plus forte que moi. C'est ça, païen. C'est clair. Alors, je voulais vous mettre en garde, il y a un âge où les hormones sont romantiques. Alors il faut passer par là. Mais avec beaucoup d'humour, traverser ça et savoir que plus vite on est surpris, plus vite on est enrichi. Vous voyez, c'est clair? Parce que c'est dommage d'être triste pour rien. C'est les romantiques qui ont érigé la tristesse en vertu. Oui? Le spleen, comment il dit? Oui? Je cherche et je ne sais pas ce que je cherche. Il y a du temps à perdre. Donc, méfiez-vous de ça. Il faut y passer un peu, c'est joli, mais surtout. Bien, qu'est-ce que
c'est? Oui. Juste tout à l'heure, vous avez dit concernant la naissance. Quand on est, il n'y a que le corps qui est né. Et puis, moi, je ne suis pas en face d'être que. Vous avez fait une différence entre moi et tout mon corps. Alors, et puis j'ai vu le chemin du début de ça, et pareil que 40 jours avant la naissance, il y a une bad cop qui sort de cancer, et puis il dit, X va se marier,
avec... Pas exactement comme ça.
Enfin, je sais pas, je m'en vais pas exactement.
Mais ouais, si Dieu veut.
Non, non, mais il y a une chance, je pense que vous avez envie d'avoir.
Bad comic.
Voilà, c'est-à-dire, X va se marier avec Y. Alors, est-ce qu'il décide avant de vous avoir moi? Avant moi? C'est-à-dire qu'il décide?
Mais tu vois que mon moi, au fond, est a priori dès que je décide de mon histoire. Mais je vais t'expliquer ce moment que tu as cité. Exercice. Il faut bien comprendre une chose. À l'intérieur d'une intuition d'une cohérence et d'une boucle profonde de ce qui existe, alors il est bien évident que. Si le fait d'être, je ne vais pas employer le bonheur, mais quand ça tombe juste, c'est pas simplement l'équilibre. Oh, je l'ai rendu, ça veut dire, quand c'est réussi de la rencontre entre un homme et une femme, il n'y a qu'un homme pour une femme et qu'une femme pour un homme. Et ça, c'est l'idéal absolu que personne n'atteint sinon pas la science. Les psychologues modernes savent qu'on se marie toujours avec le même type de femme, il y a un type idéal ou inversement. On est toujours avec le même type de mari. Il y a une espèce d'idéal idéal. Quand il y a cette rencontre-là, vraiment, lui et elle, oh, c'est miraculeux. Sinon, on se satisfait d'une approximation suffisante. Ça aussi. Mais ça veut dire qu'à la nuit, bat plonie du plonie. Ça veut dire qu'il y a un qui correspond à un et pas plus. Et alors, est-ce qu'ils vont se rencontrer? Ça, c'est une bonne question.
Moi, c'est complet dans le sens où nous vont se rencontrer.
C'est une fatalité grecque. Tu vois, c'est toi qui as dit X et Y.
Ouais.
Donc, on dit Y, c'est pas X et Y. Non, c'est une blague. Ça veut dire que, bien sûr, c'est le souhaitable. Et on est à la recherche de l'autre vrai. Oui, mais l'autre vrai, et peut-être qu'il est né dans une autre voie. Voilà, voilà. Alors finalement, il faut être raisonnable. Et puis, on sait très bien que c'est dans le l'ordre d'une approximation, il faut que ce soit matin, homogène, vous voulez, mais.
Oui, bonjour, c'est vous qui avez peut-être de façon pessimiste la problème. Il n'y a pas tellement de chance de tomber sur la personne.
Non, c'est pas pessimiste, ça c'est réaliste.
Ah,
c'est réaliste. On a parlé ensemble d'une autre chose. Ça veut dire que. Surtout, je veux dire, nous vivons dans un temps de l'histoire humaine. Toutes ces choses importantes dont nous parlons, nous avons la science de cela. Et le diagnostic de ça. Vous comprenez? Il y a encore dans certaines sociétés ce qu'on appelle la sagesse empirique de ces choses-là. Mais c'est une sagesse empirique. La connaissance lucide, oui. Et celle-là est compatible avec celui-là, oui. C'est le celui-là de celle-là, celle de celle-là. Qui c'est ça? Comment est-ce que vous allez nous parler de couscous? Mais le couscous, c'est un dérangement hormonal. C'est une espèce d'accélération des battements du cœur qui peut venir d'une décharge d'adrénaline. Et il faut être réaliste. Alors comment savoir ça? Ah, il faut prendre le conseil des gens expérimentés. Non, tu vois ce que je veux dire, on est dans le tunnel, on est dans le noir. Alors c'est pourquoi je te dis, nous sommes dans un temps de l'histoire du monde où on est dans le noir. Comment savoir qu'un tel correspond à une telle? Les anciens savaient. Nous on ne sait plus. Alors on joue à l'autre.
On vient à ce que vous avez dit tout à l'heure, concernant vous avez dit le temps des Hébreux, ils percevaient en même temps, ils croyaient percevoir en même temps, c'est-à-dire ils croyaient ça, ils le vivaient. C'est-à-dire que maintenant nous, on philosophe et puis on ne perçoit rien du tout. Alors pourquoi on philosophe?
Eh bien justement, il faut donc se dégager de la philosophie. Et je reviens à vous, ça. Et dans l'ordre de la tradition hébraïque, il y a une révélation. Il y a une révélation. Je veux dire, par une image. Imaginez qu'un jour l'humanité était dans le jour. Alors il voyait. La lumière a disparu. Le monde n'a pas changé, mais il a obscur. Il y a ceux qui se rappellent, ceux qui les avaient vus, qui savent comment c'est dans la nuit. Et les autres qui sont vraiment dans la nuit. Est-ce que c'est clair? C'est une image, mais tu comprends ce que tu.
Il n'y a pas une façon de pouvoir voir dans la nuit.
Oui, en ouvrant les yeux. Oui, une opération chirurgicale délicate qui s'appelle l'étude. Alors l'étude, ça peut ouvrir les yeux. Voilà, le fond des choses, et on a parlé de ça essentiellement, il faut retrouver la mémoire. Il faut retrouver la mémoire. Et là. L'étude, c'est précisément de faire passer la mémoire en savoir. L'objet de l'étude, c'est de faire passer la mémoire en savoir. Mais pour ça, il faut d'abord retrouver la mémoire. C'est arrivé au peuple juif depuis à peu près presque 2000 ans, en tout cas surtout depuis 400-500 ans, c'est qu'il a été complètement coupé de sa mémoire. Alors son identité n'a pas changé, mais elle est complètement occultée parce qu'il est coupé de sa mémoire. Alors, il faut retrouver la mémoire hébraïque. Et dès qu'un juif retrouve la mémoire hébraïque, alors il voit, il vit le monde comme un hébreu et tout change. Donc nous avons à passer d'une perception du monde de type culture occidentale, par un juif, c'est-à-dire un hébreu, mais coupé de sa mémoire, à une perception du monde ayant retrouvé la mémoire. C'est ça l'objectif. Mais est-ce que c'est clair? Une mémoire ne se réinvente pas. Quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience historique, ça s'est passé, de la mémoire, ne se réinvente pas. il faut le retrouver. Si ce n'est pas, si c'est pas retransmis, on ne peut pas réinventer. Okay. Bon, alors grâce à Dieu, nous avons notre carte d'identité, c'est la Bible, et on peut savoir qui nous sommes et retrouver la vérité. Mais comme vous avez dit déjà, et ça on le répétera tous les jours, ça peut se faire quand même. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler de ces choses-là dans une autre langue, mais à condition d'abord de les savoir en hébreu. C'est clair, et de savoir comment traduire. Et je voulais t'ajouter une chose tout à l'heure. Et comme tu as dit, l'essentiel, c'est de retrouver l'hébreu. Et ça, encore une fois, on le dira tous les jours. L'essentiel, c'est l'hébreu. Mais attention de ne pas parler hébreu en pensant français. Et ça, ça va être difficile. Il faut parler l'hébreu en pensant l'hébreu. Mais alors, et la patience, il faut du temps. Mais on y arrive. Je vais vous dire un secret. Avant de savoir l'hébreu, je ne savais pas, donc c'est possible. Mais je ne vous découvrirai pas. C'est évidemment difficile, mais c'est une question de temps. Il faut le temps que ça s'intègre. Vous allez voir. Je ne sais pas si vous avez enregistré, mais si je vous prends l'enregistrement et je vous dis de reparler des choses dont on a parlé aujourd'hui, vous diriez des choses complètement autres. Même avec les mêmes mots. Tout simplement parce que vous avez encore une connotation française, et c'est très précis et compliqué à la fois, gréco-latine, chrétienne, etc., etc. Et puis ça dépend quel genre d'études vous avez fait, quel livre vous lisez, quel film vous voyez, quel théâtre vous suivez. Donc, j'ai besoin de sens des mots. Et puis, c'est tout à fait autre chose. Alors, il faudra beaucoup de temps pour intégrer, décanter ça. Et alors, une fois la règle, c'est que il faut le penser en hébreu. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais revenir très strictement aux analyses des événements historiques pour vous situer Rosh Hashanah là-bas. Donc, le jour de Rosh Hashanah serait le jour pour commencement. Le jour de Kippour, c'est le jour du pardon et de l'expiation. Puis, Sukkot, l'événement historique des 7 jours de Sukkot, dont le dernier Rosh Hashanah là-bas, c'est le fait que pendant 40 ans à la sortie d'Égypte, la génération d'Israël qui est sortie d'Égypte a vécu un temps de révélation qui préfigure le temps de la réponse. Alors on apprendra pourquoi ça se passe en Soukha dans la commémoration du rite. Pourquoi on quitte l'histoire de la vie civilisée, urbaine, terrestre, on quitte l'histoire et puis on entre dans la vie directement relié au commencement par la création et, je vais dire autrement, pendant ces 40 ans du temps du désert, le peuple d'Israël avait vu comme si l'histoire du monde était achevée, avait trouvé son sens, et il était dégagé de toutes les aliénations que l'histoire, que le développement de l'histoire impose à l'homme. Ainsi, pendant les 40 ans du désert, les Hébreux mangeaient la manne. Oui. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de problème économique. Et là, imaginez, pas de problème économique. Toute la vie change, c'est déjà conditionné. Pas de problème économique. Vous voyez, c'est clair. Mais il y a d'autres signes, mais c'est ça qui est représenté par le rite de la Soukha. Le lendemain, c'est Simchat Torah, une autre fête. Ça s'appelle Shmuel Adar Atzeret, le 8e jour de clôture de la fête de Sukkot. Et ça, on en parlera à Simchat Torah même, c'est le jour où on reçoit la Torah de nouveau après tout le cycle de commémoration. Alors, je vais vous expliquer très rapidement l'importance du jour de Rosh Hashanah. Voilà, le pivot, je vais le mettre 10 tishrin. C'est le jour de l'expérience du pardon et de la rédemption. De quelle faute, de quelle aliénation, de quel échec, nous aurons étudié cela Shabbat et à la Rosh Hashanah. Mais si vous voulez, c'est relié très essentiellement à un événement très important qui s'est passé dans l'histoire du désert et qui est la faute du Rodor. Shabbat, on l'étudiera beaucoup plus en détail. Ce peuple, Israël, sorti d'Égypte, avec l'expérience de la du salut, de, je vais dire en hébreu, Géoula. L'expérience, ce qu'on appelle rédemption, salut, la Géoula, à tous les niveaux. Il est sauvé de toutes les aliénations qu'il a vécues au paroxysme comme modèle pour l'histoire humaine. L'exil. L'exil déjà. Il est sauvé de ça. Il, est donc, il a donc accès à déjà l'expérience du monde de la rédemption. Comme si l'histoire du monde est achevée, la conscience de sa perfection, on est sauvé de tous ces processus par lesquels, dans l'endrement, par lesquels il faut passer. Comme si toute l'histoire, c'est les 9 mois de l'embryon. Un jour, on va naître. Si on interrogeait l'embryon, eh bien, il répondrait à sa manière, comme nous, nous parlons du monde où nous sommes en attendant de naître vraiment. Parce que c'est clair comme correspondant. Bon. Et tout ça passe comme si toute l'histoire humaine est, à une échelle énorme, embryonnaire d'une naissance que nous avons. C'est ça la Géoula, c'est ça la rédemption. On dit d'une femme qui porte un enfant qu'elle a des espérances, vous voyez, là, là, okay, et puis que va venir le moment de la naissance. Vous voyez comment le langage vous aide à comprendre. D'ailleurs, tout se passe comme si le monde entier, c'est une matrice dans laquelle l'histoire humaine est en embryon, en attendant la délivrance. Vous trouvez là l'intuition hébraïque du sens de l'histoire humaine. C'est clair? Bon. Et alors, il s'est produit le fait que, pendant que Moïse était 40 jours sur le Sinaï pour recevoir la Torah dont ils avaient eu l'expérience, Dieu s'est révélé à eux, et puis Moïse monte recevoir la Torah comme guide pour l'histoire qui mènera à cette rédemption. Une impatience de précipitation fait que de nouveau on retourne à la religion naturelle, se soumettre aux aliénations. On adore la symbolisation du signe de Zodiac du Python, qui était le taureau, on adore le taureau. Ça, on étudiera beaucoup plus en détail Shabbat. C'est la faute par excellence. Vous comprenez? Dans cette dialectique du calendrier et de l'histoire selon la tradition hébraïque, la faute, c'est se remettre dans la vie naturelle. Le mérite, c'est se dégager de cela et d'aller vers la réussite de la vie. C'est vrai, monsieur? Bon, c'est beaucoup schématique, mais vous pouvez. Alors, dans le temps des conventions des esprits, l'événement historique qui se relie à Kippour, je vous le dis tout de suite, vous allez le comprendre, ne notez pas les détails, vous allez apprendre ça plus en détail. Le 15 Nissan, sorti d'Égypte. Le 50 jours après, le 6 Sivan, révélation de la Torah au Sinaï. Moïse monte 40 jours pour recevoir les cartes de la loi. Au 40e jour, il redescend et il voit la scène du retour. C'était le 17 Tammuz. Il casse les tables. Okay. Il remonte ensuite 40 jours pour prier, pour expier pour la faute du peuple. Nous verrons qui a fait cette faute, en quoi elle consiste. 40 jours encore, et à partir du 17 Tammuz, il reçoit les deuxièmes tables. Et 80 jours après le 17 Tammuz, c'est-à-dire 120 jours après le 6 Sivan, c'est le 10 Tishri. Donc le fait que Moïse ait ramené les deuxièmes tables, le 10 Tishri, c'est l'événement historique du pardon. C'est clair? Alors voyez pourquoi le jour de Kippour est le plus beau. C'est l'événement de commémoration du pardon par rapport à la faute qui a eu lieu le 17 Tammuz. À la faute grave, la faute du repas, qui a eu ça dans les relations entre l'homme et Dieu. Mais il y a une deuxième faute intérieure encore beaucoup plus grave qui est le Tisha B'Av, le 9 Av. Okay. Ça, nous apprendrons aussi de quoi il s'agit, c'était le refus de rendre en Égypte d'Israël. Il s'est passé le 9 Av, et c'est pourquoi la destruction du temple, grâce à qui pouvait aussi allumer un Tisha B'Av aussi. Et là, j'en profite pour élargir un peu l'illustration que je vous donnais tout à l'heure avec la guerre de 14, c'est là qu'on est parti sur la crise de la civilisation contemporaine, c'est que, vous voyez, le 17 Tammuz est aussi un jour Mouhan la Pouhanou, c'est-à-dire un jour du calendrier où le catastrophe a lieu. Le 17 Tammuz, les talons ont été brisés. Le 17 Tammuz, les murailles de Jérusalem ont été prises par les Romains. Le 9 Av, le temple a été détruit. Vous voyez comment il y a correspondance à l'intérieur de la structure du calendrier. Bon, lisons de tout cela ce port. Rosh Hashanah, Kippour, Rosh Hashanah. Vous avez vu chez moi en français cette expression Hosanna. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire en français Hosanna? Bon, c'est les chrétiens qui ont est passé dans le latin, le mot pour charme. Osharana, ça veut dire sauve-nous. Alors qu'en français, Osana, ça a pris quel sens? On n'avait jamais vu ça dans le texte français.
C'est
le chant de gloire, rien à voir. Osharana, c'est une supplication de salut. Osharana. Yeshua, c'est le salut. Bon, c'est comme par exemple le mot de Amen en français. Est censé traduire le mot de Amen en hébreu. Oui. C'est le mot hébreu qui est passé en français par le latin. Mais qu'est-ce que ça veut dire Amen en français?
Un
souhait. Hein? Un souhait, que ça soit ainsi. C'est ça le sens du mot Amen, mais le plus petit sens. Le mot en hébreu signifie j'adhère à ce que j'ai entendu. Amen, ça veut dire j'ai foi. On peut trouver Amen qui en soit ainsi dans les deux, on dit tout à fait autrement. Que les ressources, tout à fait. Vous voyez qu'en passant, bon, en tout cas, on apprend une chose importante, c'est que les Français vivent sans latin, parce que sinon ils auraient dit Amen. Alors, revenons à notre problème. L'important, c'est l'événement. C'est-à-dire, le jour de Kippour se réunit aussi à un événement dans le temps historique. Quand Moïse a ramené le deuxième étape, le peuple a expérience que le pardon est possible. La loi est rendue. C'est clair? Bon. Alors, c'est là, à partir de là, que je vous expliquerai, j'en parlerai pas très rapidement. Alors, selon la tradition hébraïque, les hommes se divisent en trois catégories. Ce sont des polarités. Les justes, même si ils définissent par le fait que leur volonté systématiquement c'est le bien et pas le mal. Ça, c'est les justes. C'est clair? On les appelle en hébreu les tzadikim. Les méchants, les chahim, se définissent de façon opposée. La volonté c'est le mal et pas le bien. Et puis il y a, en français, je donne des mots provisoires, peu importe, les gens, entre les deux, benoni, en hébreu, moyen, ok? C'est et bien et mal. Bon, et ça, c'est l'immense majorité. C'est clair? Vous avez bien compris cette idée? Bon, ce sont des polarités. Chacun va se ranger quelque part là. Des justes absolus, il y en a très peu. Des méchants absolus, il y en a très peu. L'immense majorité, c'est tout au niveau bien, mal, un peu mal, beaucoup bien, beaucoup mal. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est ça, un bénoni? Les gens du milieu, si vous voulez. Non, en français, c'est tout. C'est, s'il y a une bonne action à faire, on la fait. Mais s'il y a une mauvaise action à faire, on la fait aussi. C'est un bénoni. Il y a les deux tendances. En général, c'est ça de l'homme. C'est fait? Alors, rattachons-nous maintenant à ce problème du rite du pardon et de la rédemption de Tishri, le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement, selon la vérité absolue. Seuls les justes sont déjà sauvés à Rosh Hashanah. C'est clair? Bon. Le jour de Kippour, le jour du pardon et l'expiation, c'est les moyens. Ça, c'est qui tourne, les moyens. Et le jour de Rosh Hashanah, c'est un autre sursis qui est donné même pour les personnes, pour les autres. C'est-à-dire, Rosh Hashanah, c'est un Kippour, un Rosh Hashanah, Kippour, mais à un niveau de miséricorde absolue. C'est fait? Vous avez bien compris cela? Bon. Je vais vous le dire d'une autre manière, mais je vous reprends cela. Ici, c'est la rigueur qui nous juge. Après Rosh Hashanah, voilà, je vous le dis d'une autre manière. En moi, j'ai tous ces niveaux. J'ai un niveau en moi qui est juste absolu, tout petit, mais existe. J'ai un niveau en moi qui est juste, et pas juste, et méchant. Et j'ai un niveau en moi qui est tout méchant, les instincts. Oui. Alors, le jour de Rosh Hashanah, c'est la partie tzadik qui est sauvée. Le jour de Kippour, c'est la partie benoni. Le jour de Hashanah, c'est la partie rachat. Vous savez? Bon. On en parlera plus tard aujourd'hui en la puissance.
Qui est encore un autre
souci. On en parlera pourquoi. Mais donc, alors, à Oshanarabha, on va retrouver la lecture de Kippour, mais dans une atmosphère de beaucoup plus grand optimisme. Là, on est jugé par la rigueur. Là, on est jugé par la miséricorde. Là, on est jugé par la grâce absolue. C'est-à-dire, à ce niveau-là, la relation à Dieu, c'est une relation de grâce absolue. Même Rachar, s'il se reprend, il est sauvé. Mais donc, quelle expérience nous fait passer la liturgie de Krishna? Dans la relation, je reprends le premier principe de tout à l'heure, dans la relation au contenu du temps. C'est le temps du repentir, le septième mois, on apprendra pourquoi, et voilà les différents niveaux. Et alors après que vraiment tout le monde est pardonné, le lendemain, on reçoit la Torah. Mais comment ça se fait? Eh bien, je vais juste vous ajouter un dernier enseignement. Pour ceux qui savent déjà l'hébreu, voilà comment on dit. Juste, ça dit. Qui s'est déjà écrit l'hébreu? On va juste dire, ça dit. Benoni et Racha. Alors, il y a Tzadikim, Benonim, Urshaim, ensemble, ça forme la communauté. Dans une communauté, dans un Khebra, dans une société, il y a des justes, il y a des moyens, et il y a aussi des Kemesh. Alors, à Kishri, on constitue la communauté, et c'est tous ensemble, ouais, les différents niveaux. Le mot de communauté, en hébreu, c'est Tzibur. Tzadikim, Benonim, Urshaim. C'est-à-dire, ils sont